France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin les présidents et fondateurs de l'association Fils et Filles de Déportés Juifs de France. Ils se sont battus toute leur vie pour qu'avec la Shoah soit reconnue la responsabilité de ceux qui l'ont rendue possible et organisée. Ils ont ainsi dénoncé, traqué, chassé sans relâche les anciens nazis. Dialoguez avec eux dans quelques instants, une dizaine de minutes, au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et via l'application de France Inter. Béate, Serge Klarsfeld, bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Et merci d'être à l'antenne de France Inter ce matin. Vous allez recevoir demain ce qu'on appelle le Grand Prix franco-allemand des médias, prix que Valéry Giscard d'Estaing, Simone Veil, Daniel Cohn-Bendit, l'association SOS Méditerranée l'année dernière qui vient en aide aux migrants, ou le philosophe Jürgen Habermas ont reçu avant vous. Les Français vous connaissent pour vos travaux d'historien, vos combats contre l'impunité des anciens nazis, je l'ai dit en quelques mots à l'instant, mais on a l'impression aussi que ces dernières années, vous avez basculé vers une défense de la démocratie en tant que telle. Est-elle à nouveau menacée, selon vous, Serge Klarsfeld, pour commencer, Béate Klarsfeld?
Si la démocratie n'était pas menacée, eh bien nous ne serions pas intervenus, non pas. C'est pas que notre intervention soit déterminante, mais en tout cas, elle s'ajoute à toutes celles qui défendent des valeurs de justice, de liberté, de progrès social qui ont été élaborées pendant 75 ans. L'Union européenne, dans tous les pays de l'Europe occidentale, et ces valeurs sont menacées, nous le comprenons, il y a une longue période de paix et il y a des générations qui n'ont connu ni la guerre, ni les souffrances, ni la faim, ni la soif, ni etc., ni les privations de liberté, et qui sont prêtes parce que il y a un certain nombre de mécontentements et que ces mécontentements sont prioritaires pour des gens qui donnent à leur carrière personnelle la priorité, eh bien, ces gens-là écoutent les démagogues, et les démagogues ont du talent, et dans chaque pays, il y a des démagogues, et ces démagogues, s'attaquent à ces valeurs qui nous sont chères, puisque nous avons connu, nous, la guerre, Béate, du mauvais côté, mais elle a connu les bombardements, les privations, etc. Et moi, je représente ceux qui ont connu la Shoah, donc qui ont traversé la Shoah quand ils étaient enfants, qui ont survécu, mais qui ont perdu aussi leur famille ou des membres de leur famille.
Et du coup, donc vous êtes intervenu, vous avez signé une tribune au moment de la campagne pour les européennes pour appeler les gens à se mobiliser, à aller voter. Alors quelle analyse vous tirez des résultats des élections européennes? Est-ce que au fond vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein? À moitié plein, ça voudrait dire que la participation a été bonne, elle a été forte, que le Rassemblement national et les partis nationalistes, on parle de la grande poussée nationaliste, finalement ils sont cinquième groupe du Parlement européen. Alors certes, le Rassemblement national est en tête, mais il y a eu un sursaut pro-européen. Comment vous voyez, comment vous analysez?
Est-ce qu'elle vous rassure? Nous avons appelé les gens à voter, à aller voter et à voter pour les partis pro-européens, sans dire pour quel parti voter, mais pour les partis pro-européens. Donc,
et du coup, vous êtes rassuré ou pas par ces résultats?
Rassuré, pour l'Europe, on est rassuré, mais avec notre association des Fils et Filles, nous avons fait une dizaine de tribunes dans le Figaro, vous voyez, que nous avons payé avec notre association, parce que voilà, nous avons autour de nous les Fils et Filles, donc les parents, les frères étaient déportés, alors on sait que si l'extrême droite revient à nouveau au pouvoir, ça serait terrible. Alors donc, mais moi en tant qu'Allemande, je suis aussi très inquiète, parce que quand même aujourd'hui, qu'en Allemagne, un parti comme la AfD, l'extrême droite antisémite, raciste, anti-européenne aussi, enfin ils ne le disent pas trop ouvertement, a pu obtenir autant de sièges au Parlement allemand. Ils ne sont pas encore au gouvernement comme la FPÖ en Autriche, mais c'est quand même inquiétant. Pour l'Europe, c'est un peu calmé, mais là en Allemagne, il y a trois élections dans le Länder de l'ancienne Allemagne de l'Est, et là c'est les AfD peut même dépasser un parti comme le CDU. Ça, c'est quand même dangereux.
Donc, vous restez vigilant.
Oui. Le ministre de l'Intérieur, un mot encore, Beat Klarsfeld, le ministre de l'Intérieur allemand a annoncé en mai une recrudescence des actes antisémites de 20% donc en Allemagne en 2018. Un élu pro-migrant a été abattu par un militant néo-nazi, il faut pas dire d'extrême droite, c'est un militant néo-nazi. Que se passe-t-il selon vous dans ce pays? Est-ce que vous l'avez dit d'une certaine manière, vous êtes inquiète, mais est-ce que vous êtes très inquiète?
Bah oui, j'étais très inquiète parce que vous avez eu le procès qu'il y a eu à Munich, la NSU. Donc, sont dit trois personnes, donc Beate Schaps et deux autres qui ont, pendant 10 ans, tué quand même. Je crois que la façon de choses en Allemagne n'a pas eu le rôle qu'il fallait parce qu'il y a aussi souvent, ils utilisent parmi eux, ceux qui donnent les informations. Par exemple, une partie, dans les années 50, les Allemands ont interdit le Parti communiste. Bon. Mais aujourd'hui, ça fait deux fois que je refuse de refuser le parti, le NPD, vous voyez. Donc, c'était dangereux. Mais je crois quand même il n'y a pas assez de surveillance. Bon, l'antisémitisme, comme en France aussi, ça vient de l'extrême gauche, l'extrême droite surtout aussi, bien entendu, un peu d'immigrés qui viennent des pays comme la Syrie, etc. Mais il faudrait quand même surveiller davantage et puis intervenir tout de suite. On a vu quand même l'islamiste en Allemagne qui a tué, ils étaient déjà fichés, comme celui qui a tué sur le marché de Noël à Berlin devant la Gedächtniskirche. Bah, c'est des gens qui sont, il faudrait avoir plus de, je crois, de personnel dans la police qui s'occupe de ça pour empêcher qu'ils puissent agir.
Au début de la campagne des européennes, Serge Klarsfeld, le président Emmanuel Macron a clairement dit que le spectre des années 30 revenait planer en Europe, que les nationalismes, les murs, les frontières réapparaissaient. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analogie historique?
Oui,
est-ce que
je suis d'accord.
Vous voyez les années 30 réapparaître?
Les années 30 réapparaissent, c'est-à-dire dans les années 30, vous aviez des États fascistes et vous aviez des États démocratiques. Et puis le résultat a été le choc des États fascistes et des démocratiques, c'est-à-dire la guerre européenne qui a été suivie par la guerre mondiale. Aujourd'hui, dans chaque pays, l'extrême droite qui est favorisé par la disparition du communisme, l'extrême droite fait des progrès électoraux tels que elle peut accéder au pouvoir comme Hitler a accédé au pouvoir.
Mais est-ce que vous comparez est-ce que vous comparez l'extrême droite européenne d'aujourd'hui, le Rassemblement national en France, Salvini en Italie, oui, ce qui se passe en Autriche ou l'AFD en Allemagne avec Hitler? Est-ce que vous faites cette analogie là? Est-ce que vous allez jusque là?
On peut pas faire exactement la même analyse, on n'est pas dans la même situation, on est 90 ans après Hitler, donc, mais on peut simplement dire qu'il y a des partis qui veulent détruire l'Union européenne, qui veulent s'installer au pouvoir dans chaque pays être isolé, peut-être appauvri, mais ça ne fait rien. Pour eux, l'important, c'est d'être au pouvoir dans chaque pays et d'installer dans ces pays les valeurs auxquelles ils tiennent et qui sont pas du tout les mêmes valeurs que celles que nous connaissons depuis trois quarts de siècle. Mmh. Voilà. Donc, il y a effectivement un choc, il y a une violence qui s'accumule, il va y avoir un conflit qui est à l'échelle européenne, mais qui est dans chaque pays, il va falloir défendre la démocratie. Or, nous, ce que nous constatons, c'est que les ennemis de la démocratie ont toujours beaucoup d'énergie, alors que ceux qui devraient défendre les valeurs auxquelles nous tenons, eh bien, ceux-là profitent de la situation et n'ont pas l'air de considérer qu'il faut un engagement civique, qu'il faut se battre, qu'il faut aller voter, ne serait-ce que aller voter, et puis qu'il faut participer à des associations, à des mouvements qui défendent ce droit, ce droit, qui défendent ces valeurs, et il faut s'engager. Les gens s'engagent pas assez.
Prenons un exemple italien, Serge Klarsfeld, d'une capitaine de bateau, on en parlait encore dans les journaux de France Inter ce matin, Carola Racquette, ayant sauvé des migrants en Méditerranée, a été arrêtée sous l'œil des caméras, sous les insultes des partisans de Matteo Salvini, après avoir débarqué de force à Lampedusa. Je vais citer les insultes, les menottes, point d'exclamation, honte, point d'exclamation, j'espère que tu vas te faire violer par ces nègres. Dans le prolongement de ce que vous venez de dire, est-ce que là on est dans une situation qui en rappelle d'autres dans l'histoire ?
Oui, il y a eu des situations où des populations, ne serait-ce que les Juifs qui ont été expulsés d'Allemagne, qui se sont retrouvés dans le no man's land entre la Pologne et l'Allemagne, et qui beaucoup sont morts ou ont souffert énormément. Donc, oui. Mais en ce qui concerne le problème des migrants, il est évident que c'est l'Europe, l'Union européenne, qui doit résoudre ces problèmes. Or, nous sommes très malheureux, comme le président de la République, de voir que on n'arrive pas à l'échelle européenne d'abord d'avoir des dirigeants. On n'arrive même pas à avoir les dirigeants qu'il faut. Il faut faire des compromis ou des compromissions. Et je ne sais pas si on aura des dirigeants compétents. Et en tout cas, les dirigeants compétents doivent rassembler les forces de l'Union européenne pour résoudre ce problème, pour le poser et le résoudre d'une façon tout à fait sérieuse et devant les opinions publiques, de façon à ce qu'il n'y ait plus de ces situations. Et je rappelle tout simplement qu'on a montré les photos de deux migrants qui traversaient le Rio Grande et qui se sont noyés, mais l'Europe, elle a en face d'elle des photos, elle pourrait avoir en face d'elle des photos de milliers de migrants qui sont morts dans la Méditerranée et qui concernent l'Europe et pas les États-Unis.
Beate Klarsfeld, en 1968, vous aviez giflé en public le chancelier allemand ex-nazi Kissinger. Qui aujourd'hui vous pourriez gifler ?
C'est une question qu'on me pose souvent. Je dis, on ne peut pas comparer l'événement de l'époque. C'était, je dis, en tant qu'Allemande, j'ai toujours essayé de prendre mes responsabilités morales pour m'engager. C'était d'abord Kissinger, c'était pour épurer l'Allemagne de tous les anciens nazis qui se trouvaient pas seulement comme chancelier, mais dans les ministères. Donc, c'est une action que je devais faire. Et j'ai réussi. J'ai réussi, mais aussi parce que c'était pas facile à l'époque. Je vous dis, j'habitais à Berlin-Ouest, mais je voyais, je partais de gauche à droite, enfin de l'Est à l'Est. Pour moi, c'est déjà l'Allemagne réunifiée. Mais j'ai vu quand même que la plupart, en principe, en Allemagne, disaient, bon, le Kissinger, mais il y a tellement eu de membres de la NSDAP, pourquoi pas. Et puis aussi, tout de suite après, il y avait un peu l'anticommunisme, vous voyez, les mauvais, c'était les communistes. Alors donc, et pour obtenir, parce que notre appel c'était qu'il démissionne ou alors qu'il ne se remplace pas comme chancelier en 69. Et j'ai toujours fait campagne pour Willy Brandt qui était un résistant, qui s'est bagarré contre les nazis à l'extérieur. Mais c'était pas facile à l'époque parce que la société politique allemande ne voulait pas le savoir. Mmh. Et puis donc, il fallait trouver des moyens. Alors la documentation, tous les documents qu'on a réunis, ça servait à rien. Donc on a essayé de voir des actions, on a commencé à apprendre comment manipuler la presse aussi, voilà, la presse. Et puis, c'était des actions, première intervention au Parlement allemand, quand j'ai dit Nazi Kissinger, et puis la gifle, mais qui était d'ailleurs montrée sur les photos dans le monde entier.
Et donc, vous n'avez plus envie de gifler personne aujourd'hui?
Ben non, bien sûr que non, parce que ce n'est pas le même sens.
Voilà, le combat était d'une autre nature. Ces derniers mois, Serge Klarsfeld, auront été marqués par la disparition de ses deux amis rescapés des camps de la mort, qu'étaient Simone Veil et Marceline Loridan. Avec elle disparaît peu à peu la génération des derniers témoins de l'extermination des Juifs d'Europe. Comment, selon vous, la mémoire pourra se transmettre sans elle, sans eux, sans les survivants ?
Il y a 50 ans, il n'y avait pas, le mémorial de la Shoah à Paris et Yad Vashem en Israël, il n'y avait pas de centre sur l'histoire de la Shoah. Aujourd'hui, dans chaque pays, il y a cette histoire. Il y a des centres gigantesques comme à Washington, tous ces centres se sont développés. Ils contiennent une mémoire en livres, en témoignages audiovisuels. Des livres, il y en avait quelques centaines il y a 50 ans. Aujourd'hui, il y en a des dizaines de milliers de livres sur la Shoah, écrits non pas par des amateurs, mais par des thèses de doctorat, etc. Donc, je suis pas du tout inquiet pour la mémoire, mais la mémoire n'est pas un obstacle aux crises politiques. Il faut tirer les conséquences de la mémoire pour s'engager, mais la mémoire à elle toute seule, c'est une connaissance, oui. Mais c'est pas une prise de conscience obligatoirement qui entraîne un engagement.
Vous n'êtes pas inquiet pour la mémoire, et pourtant il y a un récent sondage qui a montré que 21% des 18-24 ans en France ne savent pas ce qu'est la Shoah. C'est-à-dire un jeune Français sur 5 ne sait pas ce que c'est. Donc vous êtes peut-être pas inquiet pour la mémoire, mais il y a quand même un...
Si on lui pose la question de la Shoah, peut-être que le mot Shoah lui est étranger, mais si on lui dit, est-ce que vous savez si les Juifs ont été persécutés pendant la guerre, je crois que c'est pas 21%, c'est moins, nettement moins. Là, je suis pas du tout inquiet. Il y a tous les jours, il y a des films, des émissions, des articles, les enseignants font leur travail, sauf peut-être dans les zones où il y a une population musulmane concentrée et où les élèves musulmans empêchent le professeur de parler de la Shoah. Mais sinon, à travers toute la France, il y a des milliers de plaques qui ont été posées pour les enfants juifs qui ont été déportés dans toutes les écoles. Non, je ne suis pas inquiet pour la mémoire de la Shoah, je suis inquiet tout simplement pour l'environnement politique qui peut changer. Et il est évident que si le Rassemblement national arrive au pouvoir, eh bien, ce sont d'autres valeurs qu'on mettra en avant. Le portrait de Pétain réapparaîtra, l'interprétation de l'histoire réapparaîtra, etc. Donc, il faut défendre. C'est ça, la priorité, c'est défendre l'État républicain.
Comment analysez-vous ce qui s'est passé en marge des manifestations de Gilets jaunes? Pensez-vous que ce sont là des débordements périphériques, des montées d'antisémitisme qui n'avaient rien à voir avec ce mouvement, ou quelque chose de différent, de plus inquiétant?
Vous avez parlé tout à l'heure de l'Allemagne où 20% d'actes antisémites. En France, je crois que c'est plutôt 70%. Donc je suis inquiet parce que il y a un antisémitisme populaire, il y a un antisémitisme aussi chez les fondamentalistes musulmans. On voit que les clichés de le schéma antisémite de 1900 des années 30, on le revoit dans la tête de jeunes musulmans. Ce mais n'est pas simplement le conflit du Moyen-Orient. C'est la haine du juif, et un certain antisémitisme populaire réapparaît avec le complotisme. Les juifs dominent le monde et donc sont responsables du mécontentement de chacun et de tous.
Mais pour revenir sur la question de Nicolas Demorand, les Gilets jaunes, quelle appréciation vous avez 6 mois après le début de cette révolte?
C'est un mouvement social qui avait sa légitimité tant qu'il était pacifique et tant qu'il était, qu'il exprimait cette volonté de changement social. À partir du moment où la violence l'a envahi et où des cris comme « abat les juifs » ou ont pu fuser parmi eux, eh bien, c'est un mouvement qui s'est déconsidéré, et j'espère qu'il va, sinon disparaître, du moins s'atténuer... et se fragiliser, ce qui est le cas actuellement.
On part au standard de France Inter où nous attendent les auditeurs. Je salue Gérard qui nous appelle de Nice. Soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Je vous en prie.
Serge Béat Carcel, merci mille fois pour tout ce que vous faites. J'ai une question un peu historique peut-être. Quels étaient vos contacts avec Claude Lanzmann? Et quel est votre sentiment par rapport à la réalisation de son œuvre? Et après, pourquoi ce désintérêt si physique que vous notez actuellement? Merci pour tout et à bientôt.
Merci Gérard. Qui veut répondre alors sur les rapports et les contacts avec Claude Lanzmann?
Claude Lanzmann était un grand ami et je l'ai toujours soutenu ses projets, notamment à la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et c'est un génie, tout simplement, c'est un génie, et il a fait une œuvre qui traversera le temps, une œuvre poétique, une œuvre d'artiste sur la Shoah, sans utiliser des archives. Moi, je suis partisan des archives, si je faisais un film, je le ferais avec des archives. Lui, il l'a fait avec sa capacité de poète, voilà. Mmh.
Beate Klarsfeld sur Lanzmann.
C'est quelque chose d'incroyable qu'il a fait. Il a créé le mot Shoah, c'est ça. Donc on lui doit beaucoup pour ça. Il était, c'est vraiment, je dis, le film Shoah était extraordinaire. Il a travaillé des années pour écouter, pour interroger en Pologne, en Allemagne, partout. Et je crois que ça a marqué beaucoup. Ce film Shoah va rester, c'est un long film. On le projette toujours par 2 heures, par 3 heures. Et ça, ce sont des films que les jeunes doivent voir. Parce que là, on a quand même ceux qui étaient des responsables, qui parlent, vous voyez. Donc je crois que c'est nécessaire pour les jeunes, pour montrer davantage.
Y a-t-il une œuvre littéraire ou cinématographique en dehors de Shoah de Lanzmann que vous conseillez aux parents, pour les enfants, pour comprendre, pour apprendre ce qui s'est passé?
Serge Klarsfeld.
Je suis en contact, j'ai lu tous les témoignages de ceux qui avaient été dans les camps et qui ont traversé la Shoah. Il est évident que l'œuvre de Primo Levi, l'œuvre de Imre Kertész, suis en train de préparer la publication d'un livre de Raïssa Kagan qui a été déportée de France sur Auschwitz et qu'elle a écrit en 1946, sont des chefs-d'œuvre de comme témoignage, voilà. Mais je suis tellement attaché au témoignage que je ne... Mais Imre Kertész, Primo Levi, ce sont des œuvres à la fois littéraires et de témoignages.
Daniel est au standard. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur Demeurant.
Bonjour, madame. Nous vous écoutons.
En janvier 2019, j'étais dans un restaurant un peu chic à la Chartres-sur-le-Loir, dans la Sarthe. Près de moi, une table, un couple, et l'homme, 45 ans, tenait des propos à sa compagne. Expliquant que le président des États-Unis avait payé Henry Ford, son ami, pour payer des figurants afin de faire de la propagande et pour dire que la Shoah n'avait pas existé. Donc ce film, c'était juste un film, ces camps de concentration. Donc je m'étonne qu'en 2019, des gens jeunes, puisque ce type avait 45 ans maximum, puissent encore tenir ce genre de propos en expliquant... un fait pareil et la femme de dire mais c'est honteux, comment a pu-t-on faire croire aux Français des choses pareilles alors que c'est complètement faux. Donc je m'étonne qu'avec tous les médias vous disiez que des jeunes ignorent la Shoah, mais ces gens 45 ans, donc ils savent.
Oui, c'est ça. Et donc là, non seulement ils savent, mais vous parlez d'une définition chimiquement pure du négationnisme. Merci, Daniel. Pour ajouter un élément, et je vous donne la parole, Étienne Chouard, militant sur Internet, défenseur du référendum d'initiative populaire, auquel il était demandé s'il doutait de l'existence des chambres à gaz, a répondu, c'était il y a quelques jours, j'y connais rien. Vous dire que les chambres à gaz ont existé de manière tranchée, non ambiguë, je ne sais pas, je n'ai rien lu dessus. Le négationnisme prospère encore, Serge Klarsfeld, y compris après la mort de son fondateur.
Oui, mais le négationnisme, c'est aussi quelque chose de volontaire chez ceux qui essayent de manipuler les masses, et c'est aussi quelque chose d'irrationnel, parce que les gens voudraient que ça n'ait pas eu lieu, pour les convaincre, c'est très très difficile de les convaincre. Je sais pas ce que tu en penses, Berthe.
Oui, je crois que c'est pour provoquer. Par exemple, vous avez en Allemagne le Oranienburg, il y a un grand camp. Et puis il y a aussi maintenant le parti AfD prend des jeunes, des groupes pour aller dans ce camp. Alors, même dans ce camp-là, ils peuvent nier la Shoah, vous voyez, c'est ça. Donc, c'est une provocation, c'est ça, je crois que c'est ça. Et d'ailleurs aussi, si l'AFD a le pouvoir dans les différentes lignes, ils ont déjà demandé de couper l'argent pour envoyer les jeunes à Auschwitz. Donc, c'est ça.
Un des chefs de l'AFD a dit que le grand monument qui est en face du Reichstag, le mémorial de la Shoah qui est en face du Reichstag, c'est une honte pour l'Allemagne. Voilà. Et qu'il devrait être supprimé. Donc.
Et on n'a pas poursuivi ça en Allemagne.
Il n'a pas été poursuivi.
Merci à tous les deux, Béat et Serge Klarsfeld. Je rappelle que vous recevrez demain le Grand Prix franco-allemand des médias qui vous sera remis, je crois même, à la maison de la radio, ici dans ces murs. Merci d'avoir été dans le studio de France Inter.